Europe Soir Weekend. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Europe Soir Dimanche jusqu'à 19h30 ce soir, puisqu'après je passerai le relais à Wendy Bouchard. Wendy qui va vous faire vivre ce soir les résultats de ce premier tour des élections régionales et des élections départementales avec nos invités, mais également avec les correspondants d'Europe 1, avec les envoyés spéciaux au cœur de vos régions. En attendant, voici le sommaire d'Europe Soir Weekend, la fin du couvre-feu ce soir, la fête de la musique demain. Comme un air de libération, est-ce bel et bien le retour de la bamboche ?
C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux,
les mesures sanitaires allégées, c'est bien, mais est-ce trop tôt, dangereux ? On en débattra avec les grandes voix dès 18h30. Juste avant, 18h15, la fête, oui, les festivals, cet été, oui, mais avec un pass sanitaire obligatoire pour ceux de plus de 1000 personnes. C'est l'incompréhension pour les professionnels de ce secteur. Philippe Mandron, le créateur et président du festival de poupées en Vendée, sera mon invité, mais également nous serons avec Jacqueline Franjou, la patronne du festival de Ramatuelle dans le Var. Vous avez l'essentiel de cette première heure, on fera bien sûr des points réguliers sur les orages qui touchent la France avec Valérie Darmon. Soyez les bienvenue, prudent si vous êtes sur la route, on est ensemble jusqu'à 19h30. Place à l'info, bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Je pense qu'à 20h, on sera 30%, alors qu'on a connu des années où ce bureau arrivait toujours aux environs des 50%. Ça reflète un peu le niveau national de démotivation des électeurs.
Le spectre d'une abstention record ce soir pour ce premier tour des départementales et des régionales, 26,70% de taux de participation à 17h, une participation en chute libre par rapport à il y a 6 ans, 17 points de moins. Nous irons dans le sud pour voir si la même tendance se dessine qu'au niveau national.
Toujours 28 départements en vigilance orange à cause des orages ce soir, notamment en Ile-de-France à Alfortville, avec un toit de 600 mètres carrés qui a été projeté sur la façade d'un immeuble de 5 étages.
Nous irons en Hongrie pour le premier entraînement des Bleus après leur match nul hier face aux Hongrois. Entraînement sans Dembélé qui doit passer des examens.
Et puis on le disait, c'est la fin du couvre-feu ce soir et demain la fête de la musique avec quelques précautions sanitaires. On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Alors, va-t-on vers une abstention record pour ce premier tour des régionales et des départementales alors que les derniers bureaux de vote vont fermer dans 2 heures maintenant ?
La participation était en recul à midi de 4 à 5 points par rapport au dernier scrutin de 2015, Louis Dragonel. Visiblement, cet après-midi, les électeurs ne se sont pas précipités dans les bureaux de vote. La participation s'effondre, tout simplement.
Oui, on peut même parler de chute libre. Un taux de participation historiquement très bas. Alors à 17h, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 26,72% des personnes inscrites sur les listes électorales avaient voté. On parle bien de 26,72% des Français. Une participation sans commune mesure avec les dernières élections régionales en 2015, où à la même heure, on atteignait le chiffre de 43,01% des votants. Il faut se souvenir qu'à l'époque, on avait déjà parlé d'une participation faible. Cette absence de mobilisation des Français a pu s'observer dès ce matin, puisqu'à midi, le ministère de l'Intérieur enregistrait une participation de 12,22%. Et si on compare encore une fois avec les dernières élections régionales de 2015, eh bien, à la même heure, 16,27% des votants s'étaient déplacés dans les bureaux de vote.
Pourquoi une si faible mobilisation ?
Eh bien, on analysera tout au long de cette soirée, dans les prochains jours, les raisons de cette abstention massive. Mais ce qu'on sait déjà, le déconfinement explique en partie le manque de motivation des Français pour se déplacer dans les isoloirs. Ensuite, il y a quand même un paradoxe, car jamais, depuis 10 ans, les Français n'ont exprimé un tel besoin de proximité et de relations directes avec leurs élus. Une certitude, cette tendance à la désertion des urnes par les Français n'est pas nouvelle, puisqu'aux dernières élections municipales de 2020, à 17h, seuls 38,77% des votants s'étaient déplacés.
Louis Dragonel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Fabienne, on va prendre maintenant la direction du sud de la France.
Oui, on va rejoindre à Marseille Stéphane Frangy. Alors, est-ce que cette tendance qu'on observe au niveau national est la même dans votre région, Stéphane ?
Oui, même si la participation est un peu supérieure à la moyenne nationale, 30,5% enregistré à 17h sur l'ensemble de la région, c'est 15 points de moins qu'au précédent scrutin de 2015. Et même dans les bureaux de vote avec traditionnellement de bonnes participations, comme ici dans le quartier du Cabot, eh bien, les isoloirs sont déserts et les présidents dépités.
Non, à part le fait que ce soit la fête des pères, mais sinon je ne pense pas qu'il y ait une faute ou une excuse quelconque. On attend. Je pense qu'à 20h on sera 30%, on ira guère au plus. Alors qu'on a connu des années où ce bureau arrivait toujours aux environs des 50%, voire plus. Là, les deux dernières élections, ça reflète un peu le niveau national de démotivation des électeurs.
Voilà, une journée marquée également par du retard à l'allumage dans différents bureaux de vote marseillais. 34 n'avaient pas de président ce matin. À 8h, il a fallu en désigner à l'hâte et beaucoup n'ont pas pu ouvrir à l'heure. Le préfet a donc dû désigner des délégués spéciaux dans l'urgence et tout n'est rentré dans l'ordre qu'en milieu de journée finalement pour les derniers bureaux, ce qui a enflammé l'ambiance entre les représentants des différents courants politiques locaux qui se sont répondus par communiqué et par tweet interposé.
Stéphane Frangier à Marseille pour Europe 1.
Et bien sûr, soirée spéciale. Donc dès 19h30 avec tous nos correspondants sur le pont, nous envoyer spéciaux partout en région. Le tout piloté et animé par Wendy Bouchard. 18h05, toujours 28 départements en vigilance orange à cause des orages ce soir.
Des orages qui ont pris parfois hier des allures de pluie torrentielle ou de tornade et qui ont provoqué des dégâts importants, notamment en Ile-de-France, Zoé Palier.
Oui, surtout dans le Val-de-Marne, plus de 300 interventions de pompiers dans ce département. Les pluies torrentielles et la foudre qui ont touché particulièrement Alfortville. Écoutez Cynthia, elle habite le quartier Grenoble, dans le sud de la commune, 24 heures après le passage de l'orage. Elle est toujours sous le choc.
J'ai vraiment cru que c'était la fin du monde. C'est vrai que les dégâts, enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. En discutant avec mes voisins, ils m'ont informé que le toit de l'immeuble juste à côté s'était envolé et avait atterri sur l'immeuble d'en face. Il y a une dame qui a été blessée à la tête et aux mains. Elle avait des coupures aux mains. On n'a jamais vu ça.
Du jamais vu non plus pour les habitants des villages autour de la vallée de la Marne. Hier, des grêlons de la taille de balles de tennis ont brisé des pare-brises. Cet après midi à Condé-en-Brie, dans l'Aisne, une cinquantaine de foyers sont toujours sans électricité. Le maire, Dominique Moïse, demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Les réparations sont en cours sur les toitures en particulier. Donc là, les entreprises commencent à manquer un petit peu de matériel, c'est-à-dire un peu de tuiles. Donc on en est là actuellement à chercher des bâches pour protéger au mieux. On nous annonce un nouvel épisode de pluie ce soir. Forcément, il y a une vraie crainte d'un épisode numéro 2.
Voilà, car les orages, même s'ils sont moins violents qu'hier, remontent cet après-midi depuis l'Auvergne-Rhône-Alpes vers le nord-est. Météo France prévoit une levée de l'alerte orange dans la nuit.
Zoé Palier.
C'est le grand soir, c'est ce soir, c'est donc fini le couvre-feu. Vous allez pouvoir rentrer chez vous au-delà de 23h, Fabienne.
2600 nouveaux cas de Covid enregistrés hier en France, ce qui témoigne d'une décrue de l'épidémie. En Martinique, 11 jours qu'il n'y a plus besoin de se justifier pour quitter l'île ou y entrer. Fini aussi la septaine pour les personnes vaccinées. Les quelques vacanciers qui s'y rendent profitent donc d'une île au calme avant le rush des grandes vacances. Écoutez le reportage de Fanny Marceau de notre radio partenaire RCI Martinique.
Sur la plage de Lensmitant, dans le sud de l'île, pas grand monde. Les terrasses sont à moitié pleines, les clients sont plutôt locaux. Un calme qui plaît à Abigail, arrivée il y a une semaine.
On devait venir en novembre, mais confinement 48 heures avant notre vol, donc on a dû reporter. Et on est là aujourd'hui. Il y a moins de monde, on peut profiter, que ce soit des restaurants, des plages, moins de circulation aussi, donc c'est sympa.
Une tranquillité et surtout une grande liberté que Martin et Valentin apprécient. Ils savourent surtout la levée de la septaine.
C'est vrai que c'était un peu plus simple au niveau des voyages à l'étranger parce que ça reste la France. On est là 7 jours, donc il fallait qu'on en profite. On est tous vaccinés, testés négatifs.
Quelques touristes, c'est bien, mais c'est loin de suffire pour faire repartir l'économie locale. Les vacanciers, voilà des mois que Willy Darivon, patron de restaurant, les attend.
Je pense que ça va venir soit pour la première semaine de juillet ou la seconde semaine de juillet. On essaie de prendre le client quand il est là. On fait des fois des horaires pas possibles pour pouvoir rentabiliser. Mais donc on vit au jour le jour, quoi.
Une longue attente dans un décor de cartes postales où sont levés dès aujourd'hui le couvre-feu et le port du masque en extérieur. Aux Trois-Îlets, Fanny Marceau, Europe 1.
Direction la Hongrie maintenant, avec les Bleus de nouveau sur le terrain ce soir. Une demi-heure que les joueurs de l'équipe de France s'entraînent sous vos yeux, Cyril de la Morinerie, au lendemain de leur match nul qui nous a un petit peu déçus, hein, faut bien dire, face aux Hongrois partout. Et en plus, vous m'avez dit qu'il fait encore chaud, parce que c'était vraiment le chaudron hier. Hein.
Oui, c'était le chaudron. Alors là, il fait un tout petit peu moins chaud parce que il est 17h, maintenant 18h, et qu'il fait 32 degrés au thermomètre et qu'il y a une partie à l'ombre sur le terrain. Et les Bleus sont restés dans cette partie-là, évidemment, parce que sinon vous grillez quand vous êtes au soleil. Donc là où je me trouve, alors que les Bleus sont en train de s'entraîner doucement, eh bien je suis dans à la périphérie de la ville, dans un petit stade où on est au calme, là, parce qu'il n'y a pas de public, hein, il y a seulement une cinquantaine de journalistes. journaliste. Et l'objectif, donc, eh bien, c'est la récupération, parce qu'il y a une énorme débauche d'énergie, une grande perte calorique, et cette grande chaleur, on en parlait il y a un instant. Une partie des Français, enfin, les Français ont fait un travail en salle ce matin, mais vous avez, on va dire, plusieurs groupes actuellement, puisque les remplaçants comme Olivier Giroud, Corentin Tolisso, Kingsley Coman ont droit à un entraînement un peu plus poussé, c'est normal, ils étaient donc remplaçants, sous l'œil avisé de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, et puis les autres comme Pogba, Kanté, Rabiot, Benzema et Kimpembe trottinent. Sur un vélo, il y a Hugo Lloris, Lucas Digne et Antoine Griezmann. Alors Griezmann, il a parlé longuement avec le sélectionneur Didier Deschamps, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, ils ont échangé. À noter l'absence d'Ousmane Dembélé, vous le disiez, l'attaquant victime d'un coup au genou va passer en fin de journée des examens pour connaître la gravité de sa blessure. Le Français du Barça n'a joué que 25 minutes. Des Bleus qui ont conscience d'avoir souffert hier, mais que l'on voit souriant et appliqué, et déterminé, bien sûr, à battre mercredi prochain le Portugal. Le match aura lieu à 21h.
Et toujours dans ce chaudron hongrois à Budapest, donc Cyril Delamont.
Oui, dans ce magnifique stade. Et on sera de nouveau rendez-vous avec Jean-François Pérez.
Voilà. Et puis demain.
Demain, 21 juin, c'est la fête de la musique.
Et après une année de disette à cause de la pandémie, elle aura bien lieu. Mais alors, sous quelles conditions, Angèle Châtelier ?
Eh bien déjà, il faut se rendre compte de l'importance de la fête de la musique en France. Selon l'INSEE, un Français sur 10 a contribué à une fête de la musique en tant que musicien ou chanteur. C'est un bon moyen de se faire connaître. Sauf que cette année, ce ne sera que dans les bars et les restaurants que les groupes pourront jouer. Mais les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits. Si c'est dans une salle, c'est avec une jauge limitée à 65%. Pour Julien, musicien d'un groupe émergent, ces contraintes sont normales, mais il a du mal à les digérer, lui qui joue à la fête de la musique depuis des années.
Bah là où c'est le plus dur pour nous, du coup, c'est c'est de pas pouvoir profiter du beau temps qu'il fait, et de c'est une autre manière de voir les choses et qui est un petit peu plus déprimante, parce que du coup on voit moins les gens qui fait leur concert.
Cependant, ils pourront apprécier leur concert, comme il dit, sans se préoccuper de l'heure à laquelle ils rentreront, puisque le couvre-feu s'est terminé.
Angèle Châtelier, la musique, les festivals cet été et le pass sanitaire. Eh bien, on va en reparler dans un instant. Merci beaucoup Fabienne Lemoyle. Bonne soirée. On vous retrouve bien sûr le week-end prochain avec beaucoup de plaisir. On regarde le ciel tout de suite.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Et bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Une fois de plus, ce soir c'est important, on va vous écouter avec beaucoup d'attente. 28 départements sont toujours en vigilance orange, orage.
Effectivement, ils progressent vers la région Rhône-Alpes et le nord-est de la France. Ils arrivent de l'arrière-pays languedocien, rejoignent en ce moment le Lyonnais, vont remonter vers le Jura et puis en direction du Dijonais. En Auvergne et en Limousin, l'instabilité orageuse persiste aussi toujours en remontant vers la Champagne et le nord de la Lorraine. Et puis enfin, dans le sud-ouest, on a une ligne d'orage qui s'est formée du centre du Poitou à l'est de Bordeaux. Elle est assez peu mobile et les intensités de pluie sont ponctuellement très fortes, avec de la grêle observée à ces endroits-là. Voilà, ces orages qui sont particulièrement venteux, avec des rafales pouvant de nouveau dépasser localement les 100 km/h, comme hier en Seine-et-Marne. Et puis on a des chutes de grêle observées aussi par Météo France sur un axe allant de l'Hérault au Jura, plus ponctuellement entre le centre et le sud-ouest. Alors par endroits, de forte intensité pluvieuse évidemment, jusqu'à 50 mm en une heure. C'est le cas en Loire-Atlantique, en Ardèche ou encore dans le Gard. Alors cette dégradation orageuse, elle a au moins un seul mérite, c'est qu'elle a fait baisser les températures et que le Rhône est sorti de la vigilance canicule.
Merci beaucoup Valérie Darmon, bien sûr, rendez-vous à 18h30. Hein. Le journal des sports avec vous, bonsoir Simon Rubin.
Bonsoir.
Simon en direct de Munich, on commence Simon avec l'actu de l'Euro et deux matchs en cours en ce moment dans le groupe A.
Suisse, Turquie et Italie, Pays de Galles au programme pour la dernière journée de ce groupe. On va retrouver Jean-François Pérez, l'un de nos envoyés spéciaux sur 7 euros. Jean-François, on va surtout avoir ce soir un œil attentif sur l'Italie, hein, qui jusqu'à présent nous a beaucoup impressionnés.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est peut-être l'équipe qui a le plus enthousiasmé depuis le début de la compétition. 2 victoires, 3-0 contre la Turquie puis contre la Suisse. L'Italie qui est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale mais qui va devoir encore aller chercher un point, on va dire, pour être sûr de terminer son groupe à la première place face à une équipe du Pays de Galles qui a elle aussi le même objectif. Donc on espère que ce match sera quand même offensif et qu'on va avoir droit à des actions et à des buts, parce que les deux équipes seraient qualifiées avec un match nul. Et comme par hasard, ce match a débuté sur un rythme, on va dire, de sénateur romain, puisqu'on joue au stade olympique de Rome cet après-midi. L'autre match, vous l'avez dit Simon, c'est le match Suisse-Turquie, et à l'instant même les Suisses qui viennent d'ouvrir la marque, ce qui veut dire qu'au moment où on se parle, la Turquie est éliminée de cet Euro, mais enfin le match est loin d'être fini encore.
Jean-François Pérez, qu'on retrouvera à 19h, bien sûr, pour la suite de ces rencontres. Et puis dans 3 jours, au commentaire, pour le match des Bleus face au Portugal.
Simon, on en parlait dans le journal de 18h, on va parler des Bleus, des Bleus qui sont toujours à Budapest, en Hongrie, pour préparer ce dernier match.
Eh oui, qui décidera de leur place dans le groupe et donc du niveau de leur adversaire au tour suivant. Antoine Griezmann, écoutez-le, parce que lui, il y croit et surtout, il annonce des Bleus revanchards face au Portugal.
Ah, parce qu'on est, obligé, parce que c'est comme ça. Plus le match arrive, mieux c'est pour tout le monde, je pense. Et voilà, va falloir répondre présent, bien travailler ce match tactiquement, voir où est-ce qu'on peut leur faire mal. Et je pense qu'on a l'équipe et le groupe pour gagner ce match. Et voilà, on va jouer ce match pour le gagner. Ça sera pas facile, mais ça, on le sait déjà, pour prendre les 3 points et garder cette première place.
Et on rappelle, France-Portugal, ce sera donc mercredi 21h sur Europe 1, bien sûr.
Simon, dans le reste de l'actualité, il y avait notamment le Grand Prix de France de Formule 1.
Un Grand Prix à suspense remporté par Max Verstappen qui dépasse Hamilton à 3 tours de l'arrivée. Course pas toujours spectaculaire mais qui a fait la part belle au pari stratégique. Pérez sur Red Bull complète le podium. Alonso avec son Alpine finit 8e juste derrière le Français Pierre Gasly. Et puis en moto, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Allemagne. Il devance le Portugais Oliveira et le Français Fabio Quartararo. En cyclisme, Rémi Cavagna est sur Deceuninck Quick-Step. Il est le nouveau champion de France de cyclisme sur route. Il s'impose en solitaire devant Rudy Mollard et Damien Touzet. Et puis un dernier mot de tennis, les Français qui brillent avec la victoire de Hugo Humbert au tournoi de Halle sur gazon en battant Rublev en finale 6-3, 7-6.
C'est complet, c'est parfait, c'est signé Simon Rubin. À tout à l'heure, Simon.
À tout à l'heure.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Alors demain, c'est la fête de la musique. Cet été, ce sera la reprise des festivals. Vous le savez, le pass sanitaire sera obligatoire pour les festivals accueillant plus de 1000 personnes. Et ça ne plaît pas à tout le monde. On en parle avec nos invités dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
L'interview du dimanche, 18h17 précisément sur Europe 1, avec deux invités ce soir. Jacqueline Franjou, la patronne du Festival de Ramatuelle. Bonsoir Jacqueline.
Bonsoir.
Et Philippe Mindron, le directeur du Festival de Poupées en Vendée. Bonsoir Philippe.
Voilà, c'est Thomas. Moi, c'est le président. Donc il n'y a pas de problème. Pardon, moi c'est Thomas Mindron le directeur et Philippe qui va très bien certainement et qui est le président, mais voilà. D'accord. Là c'est Thomas le directeur, il n'y a pas de problème. Enchanté.
Un point d'abord sur la fête de la musique, on en parlait dans le journal de 18h demain soir avec des spectacles uniquement assis, avec une édition complexe à organiser, des villes comme Versailles, Sartrouville, Saint-Tropez, Strasbourg qui ont préféré annuler cette fête de la musique demain. On va aller plus loin, on va regarder un peu les festivals d'été. Le pass sanitaire est obligatoire pour les festivals accueillant plus de 1000 personnes. Je sens que ça vous irrite. Allez, je pose la question d'abord à Jacqueline. Vous en pensez quoi, Jacqueline ?
Moi, je
ça va être compliqué à organiser.
Non, pas du tout. Je veux dire, pour l'instant, on est à 1000 personnes autorisées par la préfecture et on est allé très doucement. C'est pour ça que l'année dernière, en étant prudent, on a pu faire un festival à Ramatuelle, comme dans d'autres d'ailleurs, ils sont arrivés. Mmh. Moi, je suis pour le pass sanitaire pour la raison suivante. Il y a des tas de gens qui sont comme moi, qui ont des enfants, des familles à l'étranger. Moi, par exemple, vous voyez, je n'ai pas vu mon fils, mes petits-enfants, ma famille qui est à Hong Kong depuis 18 mois et qui ne peut pas sortir. Donc, le pass sanitaire avec Covid, test, etc., permet dans certains pays qui sont très, très durs et très réfractaires, que vous connaissez, comme la Chine et donc Hong Kong, les États-Unis en ce moment se réveille un peu, mais c'est quelque chose d'important, le pass sanitaire. Oui, je suis pour.
Thomas, ça vous irrite ?
Nous, ça nous irrite un peu. Disons que le festival de poupées ne se positionne pas pour ou contre le pass sanitaire, mais aujourd'hui, on est dans une incompréhension totale, une frustration. En fait, c'est ça qui nous énerve un peu, parce que voilà, si on prend un peu de recul, je vous explique pourquoi. Voilà, ouais. Mi-février, Roselyne Bachelot nous annonce, parce qu'on fait partie un peu de cette table ronde, que finalement le format du festival va être 5000 personnes en assis, en extérieur, masquées, que ça va être la règle du jeu à respecter pour faire des événements. On se met au travail. Hein. Et d'ailleurs, à l'époque, mi-février, il est surtout pas question de passe sanitaire. Même elle dit qu'elle est contre, clairement. Donc la règle du jeu, c'est assis en extérieur, masqué, et on va jouer le jeu de s'organiser autour de ça. Ouais. Nos festivaliers aussi, puisque ils restent et ils prennent acte. Et on va travailler quand même 3-4 mois d'affilée pour organiser un festival réinventé, adapté, hein, je réutilise ces mots, laquelle va mettre beaucoup de moyens pour finalement faire un festival qui sanitairement va être parfait. Donc il y a quand même 400 000 euros chez nous, c'est pas rien pour une association. Et même nos préfectures nous disent que ce qu'on met en place, ce festival un peu hors norme, est suffisant, satisfaisant point de vue sanitaire. Alors parce qu'il y a...
Allez-y, continuez.
Voilà, parce que voilà, on est en extérieur masqué, il y a les flux, on a pensé à tout. Malgré tout ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, fin mai, début juin, on nous annonce ce pass sanitaire qui vient là et il faut bien en prendre compte aussi. Donc nous, comme on est déterminés, on ne veut pas une deuxième année blanche, on s'organise pour ça.
Vous dites quoi? Finalement, ce qui vous dérange, c'est que cette règle s'applique au festival en plein air, mais ne s'applique pas bizarrement au parc d'attractions, par exemple, c'est ça?
Et voilà, j'allais y venir, puisque à la limite, quand la règle du jeu est pareille pour tout le monde, c'est facile de communiquer de festivalier, c'est pareil à Ramatuelle comme à Poupée à Saint-Malo-du-Bois. Maintenant, il faut dire que quand on apprend le 9 juin qu'il y a des parcs d'attractions qui ont l'autorisation de faire 5000 personnes en extérieur, même configuration que nous, en fait, hein, eh bien, eux, ils n'ont pas de passe sanitaire. À un moment donné, soit c'est dangereux, ou on est encore dans une situation critique, et il y a un passe sanitaire pour tout le monde, soit il n'y a pas, et il n'y a pas pour tout le monde. Donc nous, ce qu'on demande un peu les festivals, c'est une espèce de cohérence. C'est normalement le discours du gouvernement qui devrait être comme ça. Mais bon, tant pis, on va les aider à être cohérents.
Ouais.
Soit il n'y a pas sanitaire, et du coup, on est négatif, et c'est la fête dans nos festivals, et on est debout, et on n'est pas masqué, et voilà. Soit il n'y a pas de passe sanitaire,
avançons.
Et on est comme tout le monde.
Ouais, entendu. Voilà. Jacqueline Franjou, le festival de Ramatuelle, 36e édition, 37e édition. Du 27 juillet au 11 août, vous dites quoi? Vous allez respecter cette règle parce que de toute façon, c'est...
Moi, je respecte la règle.
C'est une obligation.
Je suis président d'une association, enfin, patronne certes, mais président d'une association responsable fiscalement, socialement et juridiquement. Donc, quand on a cette responsabilité-là, on prend tous les moyens, effectivement, pour le public et surtout aussi pour les artistes. Donc, c'est que la raison, je respecterai, comme je l'ai fait l'année dernière, les consignes qui me sont données. Et je ne peux pas d'autre chose.
Mais Jacqueline Franjou, vous comprenez la colère qu'on vient d'entendre de ces festivaliers?
Moi, je comprends cette colère parce que là, maintenant, on est sorti d'une pandémie très, très difficile, très douloureuse, avec, c'est vrai, des erreurs de communication qu'on connaît, mais personne ne savait où ils allaient exactement, personne ne connaissait cette pandémie, donc ils sont excusables. Et je comprends la colère des festivaliers qui ont été certes aidés quand même par le gouvernement, parce que je pense que le ministère de la Culture a fait beaucoup de choses. Mais d'autre part, qu'est-ce qui nous attend en septembre? Est-ce qu'il y a un retour? Et c'est ça le problème qui me fait peur. Et si vous rassemblez des personnes et que tout à coup, vous avez des malades et qu'on retrouve une pandémie très forte, c'est ce qui m'inquiète.
Thomas Mindron, ça veut dire que ça va être compliqué pour vous à organiser ce pass sanitaire? Ça veut dire qu'il y aura des contrôles supplémentaires? Ça veut dire que ça va coûter de l'argent finalement, c'est ça?
Après, on est quand même aidé par l'ARS et notre préfecture pour mettre en place peut-être des choses à ce niveau-là, mais on sent que on va être confronté à des problèmes très rapidement par rapport à ce pass sanitaire. Déjà parce que à Saint-Maur-du-Bois, dans un milieu un peu rural, on n'a pas la force de frappe, on va dire, de test pour absorber tout ce qu'il va y avoir besoin. On n'a pas un Stade de France pour tester tout le monde, nous.
Ouais.
Donc les gens, ils vont vouloir jouer le jeu du pass sanitaire et ils pourront pas parce que déjà à l'heure actuelle, c'est déjà complet. Et quand j'entends qu'ils vont passer le pass sanitaire à 50 personnes debout, à partir de 50 personnes debout, rapidement, au bout d'un moment, on peut se poser la question des moyens mis en place par rapport à un... C'est juste beau sur le papier, c'est certainement très important, mais c'est pas réalisable sur le terrain. Donc on a affaire à des gens qui pensent pas à la réalité du terrain.
Thomas, déjà la signalétique vous a coûté cher à mettre en place?
Bah, la signalétique en elle-même, pour que les gens soient bien guidés dans le festival, c'est déjà 15 000 euros. Mais la facture globale Covid, qui normalement devait suffire à lui-même, c'est-à-dire un festival réadapté, était de l'ordre de 400 000 euros déjà. Donc ça veut dire quoi 400 000 euros? C'est des gradins, c'est des chaises, c'est des circuits de circulation, c'est multiplier les bars pour pas qu'il y ait de file d'attente. Enfin, c'est tout ça qui nous avait été demandé par le ministère de la Culture à un moment donné. Donc nous, on y allait, on nous avait promis qu'on nous soutiendrait. Et là, aujourd'hui, en fait, ils nous lâchent un peu. Parce que je suis d'accord avec ma collègue de Ramatuelle. On n'a pas envie d'un retour.
Ouais.
Voilà, on n'a pas envie de retour en septembre. Si le pass sanitaire, c'est la solution, ça l'est, mais ça l'est pour tout le monde. On ne peut pas avoir double discours, c'est impossible. Comment on peut justifier à nos festivaliers que en part d'attraction, on n'a pas de pass sanitaire alors qu'on est des milliers, et que nous, il y a, alors que c'est la même chose. C'est ça qui est incroyable.
Jacqueline
Frangou, il faut que ce soit pareil pour tout le monde.
Repenser justement le festival de Ramatuelle, gros festival, ça coûte de l'argent, c'est un casse-tête. Repenser, en effet, la buvette, etc.
Bon, alors d'abord, en ce qui concerne tout ce qui est l'alimentation et la boisson, j'ai arrêté beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous avions un restaurant sur les plages de Ramatuelle qu'on doublait avec un partenaire, terminé. Donc on a une autre solution avec une autre plage et un partenaire important qui est du service à l'assiette, par exemple, pour éviter le buffet et toucher tout le monde. Bon. Le bar, à la limite, si on a une équipe qui fait très très attention à l'hygiène, ça peut se faire. On ne me l'a pas interdit cette année. Mais je ne sais pas si je vais le faire pour éviter tout problème. Maintenant, le coût, je ne peux me fier qu'à l'année dernière, c'est les achats de masques, le gel, la prise de température qui ne servait pas à grand-chose, à mon avis. Donc, on retourne avec le masque, mais maintenant, tout le monde a le masque, donc il n'y a aucun coût particulier. Le gel, oui, pour être sûr d'être en règle. Ouais. Et ma foi, la signalétique, oui, c'est un coût, mais pas un coût aussi important que ça.
Rapidement, Thomas Mindron, vous continuez à parler avec la ministre de la Culture. Est-ce que vous espérez que les mesures vont pouvoir s'assouplir?
Oui, on discute beaucoup. On avait encore une réunion vendredi matin avec eux. Voilà, visiblement, d'ici le 1er juillet, les festivals debout vont être autorisés. Et peut-être qu'ils ont pris conscience, justement, que la scie est une réponse en soi et que ça peut être une alternative, la scie en extérieur, hein, j'entends, une alternative au pass sanitaire. Nous, ce qu'on espère, c'est que les festivals aient le choix de se dire, on est au pass sanitaire parce qu'on veut proposer une expérience à nos festivaliers assez normale, en tout cas ce qui y était avant, ou de ne pas avoir affaire au pass sanitaire, et finalement d'avoir un festival adapté, pensé pour qu'il soit suffisant en soi. Ouais. Et je crois qu'ils ont entendu ce message, et on attend la semaine prochaine leur réponse officielle à ce niveau-là. Et si c'est le cas, alors je pense qu'il y aura une forme de logique entre les parcs, les festivals et tous les lieux accueillants du public. Ouais. Si c'est pas le cas, eh bien on pourra juste constater que il y en a qui sont favorisés, pas d'autres.
Allez, rapidement, 10 secondes chacun, le festival du Poupée, c'est de quand à quand? Il y a les têtes affiche cette année?
Il y a du Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, Vianney, Boulevard Désert, Alain Souchon, Philippe Catherine, Catherine Ringer, tout ça, Massistaria, tout ça.
Ça donne envie.
C'est très, très varié et c'est du 1er juillet au 17 juillet et il reste des billets parce que le pass sanitaire nous a un peu limité notre billet.
Jacqueline Frangou, le festival de Ramatuelle, c'est le camp à camp et les têtes d'affiche?
27 juillet, 12 août, j'avais deux autres choses à dire à part ça. Donc j'ai Alain Souchon, j'ai aussi Philippe Catherine, j'ai aussi Gad Elmaleh, j'ai aussi Benjamin Biolay, et puis des pièces de théâtre, comme j'ai aussi Luchini, mais des pièces de théâtre comme J'ai envie de toi, Les au paradis, etc.
La vie culturelle reprend grâce à vous, et ça fait du bien, et on vous dit...
Il y a une autre chose que je veux dire très rapidement, parce que ça ne s'est jamais fait. Avec la ville de Saint-Tropez, où il y a une femme qui est maire aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de Saint-Tropez, je vais rendre un hommage à Juliette Gréco, qui retrace toute grande partie de sa vie. C'est la plus grande artiste internationale qu'on ait eue, qui a été une star au Japon, une star dans beaucoup d'endroits, grâce à un garçon qui a collectionné tout ce qu'il pouvait dans sa vie. C'est important ce que je vous dis là, juste quelques instants. Et j'ai décidé, étant donné la situation dans la région PACA extrêmement difficile, et vous le savez, de donner un maximum pour la culture. Donc j'ouvre aussi la Villa Tamaris Pacha, où j'ouvre une exposition qui est ouverte déjà avec Yann Arthus Bertrand. Si la culture, si on n'a pas de résistance, et j'appelle vraiment les gens à voter, il faut voter, deuxième tour maintenant c'est fait, mais autrement, j'ai trop vécu la région de Toulon pour savoir que la culture est en danger.
Message donc, passé, Jacqueline.
Non, juste terminé. Je vais juste terminer ça.
Oui, attention, parce qu'il y a une règle de CSA.
Oui, la passe culture est importante, mais aussi la vie de citoyenneté est importante pour que justement que la culture vive.
Merci en tout cas à vous deux pour votre passion. Merci beaucoup.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Restez avec nous dans deux minutes sur Europe 1, l'essentiel de l'info et le débat des grandes voix, un goût de liberté retrouvé. Mais l'exécutif a-t-il été trop rapide? À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Thierry Dagiral.
Le débat des grandes voix dans un instant, mais d'abord, le Fil Info avec vous, Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Participation en chute libre pour le premier tour des élections régionales. À 17h, seulement 26,7% des 48 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ils étaient 43% en 2015. Ce scrutin devrait déboucher sur une abstention record, estimée entre 66,5% et 68,6% selon les sondages. La vague orageuse qui a commencé à balayer la France hier a fait de nombreux dégâts. Toitures arrachées, cinquantaine d'arbres couchés sur les voies SNCF dans l'Est, des milliers de foyers privés d'électricité, 28 départements sont toujours en alerte orange. Pour la première fois ce soir depuis le 30 octobre, les Français n'auront pas l'obligation de rentrer chez eux à une heure imposée. Le couvre-feu est levé avec 10 jours d'avance sur le calendrier en raison de l'amélioration de la situation sanitaire. Et puis les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment en raison de l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny l'année dernière. C'est ce qu'a fait savoir le conseiller de la Maison-Blanche.
Merci beaucoup Sophie. Vous revenez à 19h pour le journal complet. La météo, Valérie Darmon, dans le détail, le ciel redevient-il plus clément demain ?
Alors, pas vraiment Thierry, hein, mais les vigilances orange-orage, actuellement sur 28 départements, on le sait, vont bien sûr évoluer au fil de la soirée, au fil de la nuit surtout, qui s'annonce donc pluvieux ce soir sur la région parisienne, d'ici une petite demi-heure. Les orages qui sont en train de remonter du Languedoc vers le Dijonais, violents par endroits, des grêlons sont tombés cette fin de journée sur la plaine de Bièvre. En Ardèche, il est tombé 31 mm de pluie en une heure. À Lannas, à Aubenas, c'est beaucoup. Même chose à Valence, dans la Drôme. Alors demain, la situation se calme sur l'intensité des orages, mais ils vont rester nombreux et gagner le pays par la façade ouest cette fois. Alors dans le nord-ouest, situé au plus près de la nouvelle dépression qui arrive par la Bretagne, le temps est donc instable avec de la pluie toute la journée, hein, des Pays de la Loire à la Bretagne jusqu'en Normandie. Entre le bassin aquitain et les Pyrénées jusque sur le massif central, le temps est instable en matinée avec quelques averses et puis l'après-midi, l'instabilité se renforce avec des orages. Et près de la Méditerranée, le temps qui est généralement calme et assez bien ensoleillé malgré des nuages menaçants aussi du Languedoc à la Provence. Et sur toutes les autres régions, le tapis nuageux est plus ou moins épais.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Europe Soir Weekend. Thierry Dagiral.
Les grandes voix. 33 sur Europe 1. Voici votre rendez-vous du week-end, les grandes voix d'Europe 1 de ce dimanche 20 juin, en débat jusqu'à 19h avec nous ce soir. Laetitia Krupa, journaliste politique, bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de la communication politique. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thierry.
Et Bruno Jeudy, éditorialiste et rédacteur en chef à Paris Match.
Bonsoir Thierry.
Bruno. On parlera tout à l'heure de la participation, des enjeux également de ces élections locales, qui sont, on l'oublie, primordiales, sans doute, pour les territoires.
Thierry Dagiral, les grandes voix.
Mais d'abord, c'est la fin du couvre-feu. Ce soir à 23h, les masques ne sont plus obligatoires dans la rue. Est-ce que l'exécutif est allé trop vite, Bruno, jeudi ?
Non, je crois pas. Je crois que la bonne surprise d'abord, c'est que finalement les chiffres, les mauvais chiffres du Covid, de la crise sanitaire, ont chuté un peu plus vite que prévu.
Ouais.
Le gouvernement avait plutôt fait un plan de déconfinement assez bien cadencé et que avec un peu d'avance sur, sur ses prévisions, il a pu anticiper cette fin du déconfinement en levant un peu plus tôt certaines restrictions
on
sur les masques.
On risque d'envoyer le signal que tout est fini, que tout
oui,
va bien.
Oui, alors c'est exactement le risque qu'on peut entendre, c'est vrai, mais aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est le taux d'incidence nationale, de la diminution très forte des malades dans les hôpitaux, il n'y a pas de raison de les maintenir. Après, c'est vrai qu'il y a cette question du variant Delta et de cette hypothèse d'une quatrième vague qui menace, par exemple, en tous les cas, on voit les chiffres, par exemple, en Grande-Bretagne qui ne sont pas
exactement
très bons.
Laetitia Krupa.
Il y a aussi la question de la vaccination, Bruno, et d'une partie de la population dite à risque, très exposée au virus et
les
qui échappe encore.
Dans les EHPAD, etc.
Voilà, et qui échappe encore à la vaccination. Il y a aussi les personnes qui sont obèses. Là, maintenant, ça y est, les langues se délient. On dirait qu'il y a comme eu un tabou dans la société française. On ne voulait pas stigmatiser ces populations. Il ne s'agit pas de les stigmatiser, mais de les sauver. À un moment, il faut aussi un peu enlever ce carcan qu'on a moral dans nos discussions et surtout quand on communique et qu'on est de l'exécutif. Il faut aller chercher ces personnes-là. Ce sont les plus exposées et c'est celles qui risquent le plus gros.
Philippe Moreau-Chevrolet, on en parlait un instant avec Bruno. C'est vrai, quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, Le variant Delta est arrivé en avril, les contaminations sont reparties à la hausse. Boris Johnson a dû lui repousser le confinement. Est-ce que ça peut arriver chez nous dans quelques mois? Est-ce que finalement ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est un peu en avance ce qui va se passer dans quelques mois?
Alors si on écoute les médecins et les scientifiques, c'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Le variant Delta va arriver puisqu'il est déjà là de toute façon.
C'est 4% des tests environ en ce moment en France.
Il faut savoir qu'en France, on est en train de mettre en place un système très perfectionné de suivi des variants, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc on n'a pas encore les outils qui permettent de mesurer ça avec précision comme en Grande-Bretagne où ils testent énormément en Grande-Bretagne pour les variants, nous pas encore. Nous c'est 5% des tests qui sont testés pour les variants, en Grande-Bretagne c'est 50%. Donc c'est vraiment pas la même échelle. Après le problème que pose le déconfinement tel qu'il a été fait, c'est que c'est toujours tout ou rien. En France. C'est-à-dire que soit on ouvre, soit on ferme. Ouais. Mais alors, entre les deux, on ne connaît pas. On a aussi les ministres covido-sceptiques, par exemple Blanquer, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui refuse de suivre les prescriptions du Haut Conseil de Santé publique ou de l'Académie des sciences, qui disent il faut que tous les lieux publics soient équipés de filtres HEPA contre les virus, de capteurs de CO2 pour vérifier si on a besoin ou pas d'aérer. Tout ça permettrait de maintenir ces lieux ouverts et de ne plus être dans l'alternative « Ouh là là, ça monte, on ferme !» Ah bon, ça va mieux. Ouais. Ah bah on rouvre. Voilà, parce que ça c'est de la politique du café du commerce, mais c'est pas de la politique sanitaire.
C'est quoi? C'est de la politique à l'instinct du coup? C'est ça? C'est trop rapide ce que vous
dites? C'est de la politique électorale. Le malheur du pays, de notre pays, c'est que la classe politique a rendez-vous dans un an pour des élections présidentielles et que ça paralyse absolument toute réflexion. Ça aurait été vrai avec n'importe quel président sortant, avec n'importe quel gouvernement, donc c'est pas spécifiquement celui-là.
Ouais. Bruno Jeudy, vous qui connaissez les coulisses parfaitement, vous pensez qu'Olivier Véran, il est inquiet. Il dit ce matin dans le JDD que quand il part, comme à Moscou, le variant Delta, il part fort. Vous pensez que le gouvernement a décidé des choses, là, d'aller un peu plus vite, mais que finalement,
Olivier Véran, d'abord, il est dans son rôle, c'est le ministre de la Santé.
Ouais.
Il est souvent un petit peu le... entre guillemets, et c'est comme ça, un peu le rabat-joie, lorsque on se dit que ça va un peu mieux. Mais passons les épisodes masques et tests, mais pour ce qui est, j'allais dire, de cibler un peu les moments où il faut cadencer le déconfinement ou accélérer sur le confinement et couvre-feu, il a quand même toujours été plutôt dans une position assez stricte. Donc il est dans son rôle, il regarde ce qui se passe à l'étranger, il prend en considération ce variant Delta, et en quelque sorte, il prend date, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera.
Ouais.
Donc moi, je ne crois pas, je pense qu'il est dans son rôle. Après, Olivier Véran, on l'a vu hein, d'ailleurs, hein, lorsque lui souhaitait qu'on soit reconfiné le 29 janvier, le président n'a pas voulu, donc il pose les options sur la table, et en tant que ministre de la Santé, il doit toutes les poser.
Laetitia.
Il me semble qu'il y a quand même une légère évolution dans la politique qu'on a pour traquer le virus, puisque Olivier Véran nous dit aujourd'hui dans les colonnes du JDD qu'il y aura sanctions et davantage de contrôle pour ceux qui seraient testés positifs aux variants indiens, Delta, on ne sait plus, enfin, on a compris, et qu'il y aurait, s'ils ne répondent pas aux appels de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, qu'il y aurait alerte auprès du préfet et sanctions. Or, ce discours-là, on ne l'a jamais entendu. Il refusait jusqu'à maintenant, le gouvernement, de se montrer de façon coercitive dans la lutte contre le virus. Il y avait comme un problème d'image, hein, parce que finalement, ça se fait dans d'autres pays, dans des démocraties, je précise, hein, parce que souvent, on oppose à cet argument le fait que ce soit dans des pays autoritaires. Non. À Taïwan, par exemple, il y avait, et dans toute l'Océanie, ce type de mesures qui ont été prises sans que cela crée une impression ou une concrétisation de privation de liberté.
Ouais.
Donc il faut à un moment prendre le taureau par les cornes, et si les personnes testées positives continuent à sortir et à contaminer les autres, faire en sorte qu'elles restent isolées.
Et il annonce d'ailleurs dans les colonnes du JDD, Olivier Véran, ce matin, des autotests sur les plages, des médiateurs anti-Covid. Ça veut dire, Philippe Moreau-Chevrolet, que l'été, ça va être un passage... compliqué, regarder de près, tout se joue là, dans les deux mois qui arrivent.
Oui, on s'attend en fait à ce que le variant Delta se développe de manière exponentielle, donc on ne sait pas encore si ça va être comme d'habitude, c'est-à-dire une phase calme et puis ça explose d'un seul coup, ou si ça va être différent cette fois-ci, en fait il y a une vraie interrogation. Les symptômes ne sont pas les mêmes, donc il va falloir aussi rééduquer en partie nos habitudes, c'est-à-dire que les symptômes ressembleront beaucoup plus a priori à une grippe classique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a plein de choses qui vont devoir être faites, mais Olivier Véran fait vraiment un travail fantastique de préparation du pays à ça, il faut le dire, il faut le souligner. Il fait ça avec beaucoup de pédagogie et lui, il tient debout dans cette crise.
Est-ce que ce qui se joue là, ce qui va se jouer cet été, Bruno, jeudi, c'est aussi la rentrée finalement de l'exécutif et on va dire, allez, et l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron ?
Elle n'a pas déjà commencé, non ? Je blague. Oui, moi j'ajouterais une chose. Bon, effectivement, la crise sanitaire, elle va rester comme ça, un peu, loin de nous, ou en tous les cas, pas remontant, j'allais dire, à la surface, il faut l'espérer. Je pense que le gouvernement espère plutôt pouvoir un peu pousser les feux sur le plan de relance, qui va lui permettre aussi de continuer un peu à dépenser. Hein. Ouais. Il y a une expression qui fait florès dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est Richard Ferrand qui dit, en parlant de Bruno Le Maire, on va lui dire de rester marxiste le plus longtemps possible. Ouais. En gros, plus le quoi qu'il en coûte va continuer, plus ça mettra d'abord les sociodémocrates, c'est-à-dire la gauche, en difficulté. Parce que moi, je pense que le quoi qu'il en coûte aujourd'hui annihile toute chance de remonter pour la gauche. Deuxièmement, on calme un peu les corporations, surtout avant dans des climats de pré-campagne présidentielle. Donc oui, ça va être ça un peu la rentrée. Avec une inconnue. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'il y a une quatrième vague ou pas. Espérons qu'il y en ait pas.
Il semblerait que l'ampleur en soit modérée de toute façon, puisqu'il y aura, bien sûr, des dizaines de millions de Français qui seront vaccinés. Donc, on peut espérer que l'impact soit totalement différent. Il me semble que la rentrée, c'est davantage un risque social, un risque économique. On ne sait pas du tout dans quel état va être le pays si on enlève effectivement la perfusion qu'on lui a posée pendant cette crise sanitaire. Alors on va peut-être lui retirer doucement et petit à petit, mais il me semble que la dette est abyssale et qu'à un moment donné, il va falloir aussi que l'exécutif explique, parce que pour l'instant, je trouve que vraiment, on ne le met pas trop en difficulté sur cette question-là qui est, selon moi, centrale, sur comment va-t-on rembourser cette dette.
Allez, restez avec nous, le débat des grandes voix continue. On vote encore. On va dans un instant parler abstention. Et puis on va voir les enjeux de ce premier tour des régionales et des départementales. A tout de suite sur Europe 1.
Thierry Dagiral, les grandes voix. C'est très compliqué.
18h45 sur Europe 1, la deuxième partie de votre débat des grandes voix ce soir avec Laetitia Krupa, journaliste politique, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de la communication politique, et Bruno Jeudy, éditorialiste et rédacteur en chef à Paris Match. On l'a dit, une grande soirée dès 19h30 sur Europe 1 pour vous faire vivre les résultats de ce premier tour des régionales et des départementales. Vous serez d'ailleurs avec nous ce soir, les grandes voix, et avec Wendy Bouchard. Aucun chiffre, bien sûr, pour le moment, pas avant 20h. Seulement celui de l'abstention, 66 à 68%. C'est énorme, c'est historique, Bruno Jeudy.
Oui, c'est historique. Hein. Toute élection confondue, jamais on a aussi peu voté en France sur une élection nationale, puisqu'on vote sur tout le territoire. Hormis, il faut juste dire, pour être précis, parce que parfois on est critiqué, hormis le référendum de 2000 sur le passage du septennat au quinquennat, où là on avait tutoyé les 70% d'abstention. Même le quinquennat sur la Nouvelle-Calédonie, alors c'est très très loin, Rocard Mitterrand, on avait plus voté qu'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que là, on est quand même... Donc c'est un vrai problème.
Ça dit quoi de ce moment-là ?
Mais ça dit beaucoup de choses. D'abord, un, c'est pas seulement la question sanitaire. Pas seulement la question sanitaire.
C'est clairement un désintérêt.
C'est pas seulement
ou un message.
C'est pas seulement parce qu'il fait beau. C'est aussi parce que on n'a plus envie de voter en France pour une partie grandissante de la population. Pour des raisons différentes, je dirais d'abord parce qu'il y a une espèce de petit à petit, il y a ce côté, au fond, il n'y a plus qu'une élection qui compte, c'est l'élection présidentielle.
La présidentielle.
Ça s'est renforcé sans doute avec la crise sanitaire.
Mais ça veut dire quoi ? C'est dû au système finalement ? C'est dû à l'exécutif ? Enfin, c'est dû au calendrier électoral, on va dire ?
C'est dû à un pays qui finalement reste hyper centralisé, où pendant cette crise sanitaire, les Français se sont rendus compte qu'un président pouvait lui tout seul décider de nous enfermer ou pas, par exemple. Donc du coup, il y a un côté, c'est... Jérôme Fourquet, il a une expression... Le politologue, il dit en France maintenant, c'est appelez-moi le patron. Donc du coup, on vote pour la présidentielle. Et encore, toutes les élections, Thierry, depuis 30 ans, hormis les européennes de 2019, toutes les élections depuis 30 ans, on vote moins qu'à l'élection précédente. Même la présidentielle de 2017, on a voté
il y avait 25% d'abstention.
Presque 25% d'abstention. C'était moins qu'en 2012. En 2012, c'était moins qu'en 2007. Aux législatives, on l'a oublié, il y avait déjà qu'un Français sur deux qui avait voté. Et là, cette fois-ci, là, on bat les records. Ça dit aussi beaucoup d'une ambiance de fin de quinquennat où au fond, les Français, soit ils iront voter à la présidentielle. Et là, il faut l'espérer, on votera plus forcément. Ça dit tout ça. C'est une pente inquiétante parce que quand on a voté en Allemagne, quand on a voté aux Pays-Bas, il n'y avait pas ce problème.
Laetitia Krupa.
Ça dit aussi quelque chose, et là je m'adresse à Philippe. Je pense que les politiques ne savent pas communiquer. Philippe, vous avez du boulot. C'est-à-dire que si le politique n'explique pas à sa population, à ses administrés, pourquoi ça. Il est utile de voter pour lui et les mesures, et pourtant les régionales et départementales, c'est très concret, c'est très concernant.
C'est ça.
C'est notre vie quotidienne,
à un moment, on parle
nos enfants, nos transports.
De la vie locale, bien évidemment.
Exactement. Oui, donc là, il y a un problème. Il y a un problème entre les gouvernés et les gouvernants. Mmh. Il y a un problème de dialogue, de communication.
Oui, il y a un problème de sens. C'est-à-dire qu'on donne pas de sens.
Philippe Bourgeois-Brelet.
On donne pas de sens au scrutin, Laetitia a raison. On n'explique pas aux gens pourquoi ils devraient voter. Si vous ne donnez pas de sens à ce que vous faites, les gens ne vont pas naturellement voter parce qu'il n'y a plus de réflexe citoyen. C'est ce que décrivait Bruno jeudi, il n'y a plus de réflexe citoyen. C'est en train de se perdre. Le vote devient conditionné à un objectif, à quelque chose. Et c'est plus réflexe comme avant.
Mais je reprends la question de Laetitia, finalement. Est-ce que ce sont les politiques, est-ce que c'est nous aussi, journalistes, qui n'expliquons pas ce que sont les régions, les départements, c'est les lycées, les collèges de nos mômes. C'est les routes, c'est notre vie quotidienne. À un moment, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a un Castex qui nous fait un discours de politique générale.
Mais attendez, tous les candidats régionaux ont fait campagne. Tous les candidats régionaux ont fait campagne sur la sécurité, qui n'est pas de compétence de la région. Tout le monde prépare la présidentielle.
Donc la faute aux
politiques. Oui, bien sûr.
Enfin, on a aussi notre part de responsabilité. Il faut le dire. Par exemple, il n'y a pratiquement pas eu d'article, pratiquement pas une minute à la télé
sur le but,
sur les départementales.
Ouais.
Par exemple, les élections départementales. Alors, c'est l'élection invisible. Moi, je crois quand même que notre millefeuille administratif est assez compliqué. Le scrutin départemental. Vas-y coco, là, le binôme avec un homme, une femme, c'est assez compliqué. C'est pourtant, vous avez raison, des collectivités qui ont un impact sur nos vies quotidiennes.
Et la région, le discours de Jean Castex, c'est à la mi-juillet l'an dernier, vraiment sur la France des territoires.
Non, moi je crois que ça dépasse ça. Je crois qu'aujourd'hui, longtemps, l'abstention c'était les jeunes et les classes populaires. Maintenant, l'abstention, ça touche aussi les classes moyennes et ça rattrape les seniors. Donc c'est un mouvement de fond qui touche les démocraties occidentales, sans doute un peu plus la France que nos pays voisins. Le Portugal a voté il y a peu de temps, il y avait quand même 45% d'abstention sur des législatives. Mais en Allemagne ou aux Pays-Bas, on a voté récemment, c'était le niveau de vote était correct. Là, en France, on voit bien que l'abstention est devenue une protestation politique.
Ça a été quand même une drôle de campagne. Campagne à distance, campagne sans meeting, ou peu. Campagne en pleine crise sanitaire. Qui finalement, vous l'évoquiez, Philippe, s'est transformé en tour de chauffe à un an de la présidentielle. Quoi.
Oui, c'est ça. Mais c'est le président a intérêt à profiter de cette période où il ne se passe pas grand-chose et où ses adversaires sont paralysés par les régionales. Oui. Il ne se passe pas grand-chose sur le terrain présidentiel pour faire campagne. Xavier Bertrand, il est tout entier concentré sur sa campagne locale. Pécresse également. Enfin, tous ses adversaires potentiels à droite, qui sont les seuls vrais adversaires que lui-même se reconnaît, ne sont pas disponibles. Donc il a tout intérêt à jouer, il serait fou de ne pas le faire. Après, ce qui se passe sur cette élection est quand même historique. C'est une gifle pour la classe politique, la participation. Voilà. Il y a eu la gifle au président, là il y a la gifle à l'ensemble de la classe politique.
Ouais. Oui, c'est une gifle qui va être assez violente et qui va sans doute, il faudra faire attention, j'allais dire, annihiler en partie... Les conclusions, les leçons qu'on tirera de ce scrutin, parce qu'avec un tiers des gens qui se déplacent, il va falloir y aller mollo et très prudent sur ce qu'on va les interprétations qu'on tirera de ce scrutin.
Laetitia Krupa, justement, des élus mal élus dans nos régions, c'est quoi? C'est donner peu de force au territoire?
Ben forcément, quand on a un socle électoral très bas, on a forcément plus de difficultés ensuite à démontrer qu'on a fédéré et que la majorité des Français sont pour ce type de politique. Donc ça, oui, c'est mathématique en fait la question que vous me posez, mais il me semble qu'on s'embourbe un peu dans le constat. C'est un constat qu'on fait depuis des années, cette abstention,
ce délitement qu'on entend à chaque soir
d'élection. Ce délitement de la politique, cette défiance de la politique. Moi, j'aimerais qu'il y ait une sociologie des votants, c'est-à-dire qu'on tire des enseignements aussi de ceux qui continuent à aller voter pour savoir pourquoi les autres en catégorie socio-professionnelle, en âge, vous avez raison. Enfin, en tout cas, qu'on tente de déterminer un profil type de l'abstentionniste en 2021 et qu'ensuite, le politique propose aussi des solutions pour sortir de cette mort annoncée de la politique.
Mais c'est vrai que tous les soirs...
On ne va pas en rester là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne vote plus ? Ça veut dire qu'on va continuer à avoir des élections où une minorité de Français se déplace ? Ce n'est pas possible.
C'est quoi, là, en effet, la solution ? C'est vrai que tous les soirs d'élection, on tient le même discours.
Alors moi je crois quand même qu'en France on n'a pas assez réfléchi, en tous les cas l'exécutif qui a été beaucoup sollicité par les oppositions, je pense qu'il y a eu des débats au Sénat assez intéressants là-dessus, on n'a pas assez réfléchi sur les possibilités d'améliorer le vote. On a vu aux États-Unis par exemple que l'élection américaine, il y avait eu un impact quand même de permettre un certain nombre de possibilités de vote électronique, de même
ça c'est une solution pour vous.
Je ne sais pas, il faut y réfléchir davantage. Là on a essayé de faciliter un peu les procurations, ouais. Mais c'est à peu près tout. Peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres voies. Alors le vote par électronique, on a vu que ça avait été gelé parce qu'il y avait des risques, mais ça existe quand même dans certaines villes. Oui. Moi, je pense aux jeunes. C'est vrai que ça a quelque chose peut-être un peu de désuet dans la forme. Je dis bien dans la forme, mais peut-être qu'on peut l'améliorer, voir comment on peut multiplier les alternatives au vote physique, d'aller dans son bureau de vote avec ce système. On n'a pas assez réfléchi à ça. Il faut voir quand même. On a vu qu'aux États-Unis, ça a eu un impact.
Un rendez-vous en tout cas dès 19h30, hein, je vous le redis, avec Wendy Bouchard. Avec vous, hein, vous restez là, avec nos correspondants en région, nos envoyés spéciaux partout en France. Soirée spéciale sur Europe 1.
Thierry Dagiral, les grandes voix.
Alors, avant de se quitter, les grandes voix, vos traditionnelles vues, lues, entendues de ce dimanche, on commence par Laetitia Krupa.
Alors, vous commencez par moi. Bah, écoutez, j'ai lu l'interview de Cyril Hanouna dans Le Parisien aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez lu ? Je pense qu'on est tous à peu près contents qu'il n'ait pas tenu le pari. En tout cas, le projet, Philippe, vous le connaissez mieux que moi, mais il avait ce projet apparemment de faire un documentaire pendant la campagne, un faux documentaire, un canular pendant la campagne présidentielle.
Il n'y a pas un livre qui est sorti sur les clowns ?
Une BD qui s'appelle Le Président par des auteurs fabuleux. Philippe Moreau-Chevrolet, je crois que c'est ça.
On est deux à en avoir parlé. En tout cas, voilà, Hanouna voulait se lancer dans ce canular en faisant la tournée des marchés et aller glaner ses 500 signatures. Écoutez, moi, je trouve que c'est c'est dommage, finalement. Hein, on aurait bien aimé vivre une grosse rasra. Ça vous dit quelque chose ou pas, la rasra ? C'est dans un vocabulaire hanounesque qui est tiré apparemment du judéo-arabe. Ça veut dire l'angoisse. Mais en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses dans une interview. J'apprends que CNews, on reste devant parce qu'il se passe toujours quelque chose. J'apprends que l'éviction de Sébastien Thoen, finalement, c'est dû à un manque de loyauté. Je cite, la loyauté est importante dans un groupe. Et puis, Éric Zemmour, on apprend que peut-être qu'il sera à la table de sa grande émission politique, puisqu'Hanouna nous promet une grande émission politique, mais il ne sait pas encore s'il sera chroniqueur ou invité.
Allez, vu, lu, entendu, Bruno Jeudy.
J'en ai déjà donné un hier, donc je ne vais pas donner le même, mais je l'adorais. Mon vu cette semaine, c'est dans mes reportages en dehors de la politique, ça arrive de temps en temps, y compris cette semaine, j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est aller voir le site du futur musée Saint-Exupéry, c'est à Saint-Maurice-de-Rémins, c'est dans l'Ain. Il se trouve qu'en France, il n'y a pas de musée Saint-Exupéry, il y en a un seul dans le monde, il est au Japon, il y a 400 000 visiteurs par an, et les Japonais ont reconstitué le château où a vécu Saint-Exupéry. Ce château existe, c'était incroyable qu'il n'y ait pas de musée. Grâce à Stéphane Bern, Laurent Wauquiez, la région et la mairie, il va y en avoir un. Et je peux vous dire que ce sera vraiment bien. Il faut quand même savoir que Saint-Exupéry, le petit prince, c'est le personnage le plus connu après Astérix, le français, personnage français le plus connu après Astérix au monde.
Philippe Moreau, je voulais vous fermer le banc.
Oui, alors je reprends la même interview de Cyril Hanouna parce qu'on lui parle de la BD qu'on a faite sur lui. Donc, pour information, je confirme ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont acheté les droits pour en faire une adaptation. Alors, on ne sait pas si c'est un film ou autre chose, mais en l'occurrence, ça cadre avec ce que dit Cyril Hanouna. Moi, je trouve qu'il y a déjà un candidat. D'ailleurs, c'est vous, Laetitia, qui en avez parlé dans La Tentation du clown, autre livre très bien, qui est Éric Zemmour, qui pourrait être le candidat pour la présidentielle, qui dit perturbe tout et qui lui a l'air déterminé à aller jusqu'au bout, alors qu'il se prend beaucoup, beaucoup d'obstacles déjà. Ça veut dire qu'il y a une élection où tout le monde se sent possiblement éligible président de la République. N'importe qui peut être président en 2022. Thierry, je ne sais pas ce que vous faites bientôt, mais en mai 2022, mais vous pourriez être candidat. Ouais, Bruno pourrais. Aussi, Laetitia allez. Aussi, moi allez. Aussi. Donc, allez, allons-y.
Merci soyons candidats. Vous ne bougez pas, vous restez ici. On vous retrouve ce soir dans la soirée spéciale. Merci à vous.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le journal de Sophie Tussaud. On était en région PACA dans le journal de 18h. On sera dans les Hauts-de-France à 1h des premiers résultats maintenant. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous rappelle notre soirée spéciale élection dès 19h30 avec Wendy Bouchard, Europe 1. Au cœur de vos régions ce soir avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux. On va continuer à reparler des enjeux de cette soirée dans un quart d'heure avec Mickaël Darmon et Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1. Mais pour l'heure, c'est Sophie Tussaud qui vous informe. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Il est 19h sur Europe 1.
On n'a pas trop le temps de s'intéresser en fait au sujet. Parce qu'on travaille, et puis les stress des pandémies, des machins.
Les Français ont boudé les urnes aujourd'hui. Moins de 27% de participation à 17h. Abstention record attendue pour le premier tour des élections régionales.
Dernière révision ou bien week-end de détente. Les élèves de terminale entament demain l'épreuve du grand oral pour le bac. Une grande première et une épreuve plus ou moins redoutée, vous l'entendrez.
Thomas Pesquet, de nouveau de sortie dans l'espace. Le spationaute effectue en ce moment une mission de plus de 6 heures pour installer des panneaux solaires sur l'ISS.
Et puis les Bleus à l'entraînement au lendemain de leur match nul face à la Hongrie. Un programme très précis avant leur rencontre mercredi face au Portugal. Nous irons à Budapest dans ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il est donc 19h. La plupart des bureaux de vote sont fermés. Dans les grandes villes, ils restent ouverts encore pendant une heure. Mais d'ores et déjà, on sait que l'abstention atteindra un niveau record.
Jamais la participation n'avait été si basse pour un scrutin régional à 17h. Seulement 26,7% des électeurs s'étaient rendus aux urnes, un chiffre en chute libre selon le ministère de l'Intérieur. À titre de comparaison, il était de 43% en 2015. Les instituts de sondage tablent sur une abstention comprise entre 66,5% et 68,6%.
Alors Sophie, la participation est la première inconnue de ce scrutin. L'autre inconnue est le score que réalisera le Rassemblement national.
Deux régions sont particulièrement scrutées, Provence, Alpes, Côte d'Azur et les Hauts-de-France. Hélène Terzian, vous vous trouvez à Hénin-Beaumont pour Europe 1, le fief de Marine Le Pen. Comment s'est déroulé le vote ?
Eh bien ici, comme à l'échelle nationale, le taux de participation est historiquement bas, 27,17% à 17h. En 2015, il était d'un peu plus de 49% au premier tour à la même heure. Et c'est vrai qu'en discutant avec les habitants, la faible mobilisation est frappante. Certains comme André n'étaient même pas au courant du scrutin.
Et on n'a pas trop le temps de s'intéresser en fait au sujet. Parce qu'on travaille, et puis les stress des pandémies, des machins. Là, pour l'instant, les hommes politiques, ce qu'ils veulent faire de la région ou du machin, ça ne m'intéresse pas.
Ahmed, lui, est allé voter, mais là non plus, sans grande conviction.
C'est un droit civique, donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut prendre ses responsabilités. Je les ai prises, j'ai été voté parce que je pense que c'est quand même important. Même si aujourd'hui, on n'a pas de quoi voter, ou à vouloir voter parce qu'il n'y a aucun intérêt à aller voter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de changement. Vous prenez la gauche, la droite, etc. Il n'y a jamais eu de changement, il n'y en aura jamais.
En tout cas, les enjeux ici dépassent les frontières de la région. D'ailleurs, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont tous les deux voté dans les Hauts-de-France. Marine Le Pen qui, en 2015, était arrivée en tête au premier tour, loin devant, avec plus de 40% des voix. Suivi du candidat de la droite, Xavier Bertrand, l'actuel président de région et candidat à la présidentielle, avait alors bénéficié du retrait de la gauche.
Hélène Terzian à Hénin-Beaumont pour Europe 1. À la fin du couvre-feu en France, aucune obligation ce soir d'être rentré chez soi à 23h. C'est la fin donc d'une restriction qui avait débuté le 30 octobre dernier. Elle avait été levée avec 10 jours d'avance sur le calendrier prévu en raison de l'amélioration de la situation sanitaire.
C'est le grand jour, ça commence demain pour les élèves de terminale qui passent leur bac avec le début du grand oral, la nouvelle épreuve phare de l'examen.
Oui, une épreuve très stressante, hein, d'autant que les lycéens ne se sentent pas préparés. Alors comment ont-ils vécu leur dernier week-end avant l'épreuve, révision ou détente ? Frédéric Michel est allé à leur rencontre à Cannes.
Ça reste stressant, c'est un bac, c'est une épreuve, c'est quelque chose à passer, mais une fois qu'on y est, ça passe.
Ils sont les premiers à passer le grand oral et ne semblent pas tous impressionnés par cette épreuve inédite.
L'oral, c'est plus facile que l'écrit. De toute façon, c'est juste à apprendre l'oral. Mais avec le soleil et tout, on a envie de sortir parce que les cours, voilà.
Oui, non, là, on révise pas. Non, bah,
là, il n'y a pas de cahier.
Que dalle. Non, là, on est vraiment fait pour décompresser justement. Parce que sinon...
Il faut se prendre un jour de repos parce que sinon, on ne sera pas bien efficace dans les révisions.
Exactement.
Du coup, voilà.
Mais pour ces deux élèves de terminale, pas question de fermer totalement les livres ce week-end.
Moi, j'appréhende un petit peu. Cette année, clairement, je n'ai pas assez travaillé dû au fait du confinement et tout. Je me sens pas prêt. Par contre, j'ai réussi à faire un oral blanc. Ça m'a un peu rassuré, mais quand même, je me sens pas prêt.
L'oral, c'est bien plus stressant que l'écrit, parce que le fait de passer, de devoir s'exprimer. Mais bon, voilà, on révise et on verra bien ce qui se passe.
Hugo est en terminale scientifique à Cannes.
Moi, j'ai choisi mathématiques et physique-chimie. On sait déjà de quoi on va parler. On parle de ce sujet-là toute l'année sur nos deux spécialités. Ça peut aider à faire quelque chose de consistant.
L'épreuve dure 20 minutes. Elle est notée sur 20 points et jugée par deux professeurs de matières différentes. Cannes, Frédéric Michel, Europe 1.
19h05 sur Europe 1 l'étranger à présent, avec hier l'élection d'Ebrahim Raisi en Iran qui a été officialisée. Se pose à présent, Sophie, la question des relations entre cet ultra-conservateur et les États-Unis.
Oui, le nouveau président iranien qui devra composer avec Joe Biden, notamment sur la question du nucléaire. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran. Comment le nouveau locataire de la Maison-Blanche est-il perçu en Iran ?
Eh bien, comme un potentiel bol d'air. Avec son élection, l'inflation a légèrement ralenti en Iran. Signe évident d'apaisement pour ce jeune étudiant en relations internationales.
Tout va changer. Ils ont repris les négociations sur le nucléaire à Vienne. Et si cet accord repart, ça ira mieux pour nous. Ce qui fait que les États-Unis sont un grand pays, c'est quoi ? C'est le multilatéralisme. Ils sont encore partout, ils reviennent même dans l'accord de Paris sur le climat. Biden remet les États-Unis sur le bon chemin.
S'il faut lui trouver un défaut, c'est du côté des Iraniens les plus durs qu'il faut chercher. Kanani Moghadam, ancien cadre des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime, préférait Donald Trump.
Trump utilisait la manière forte, mais il jouait franc jeu. Alors que Biden fera du soft power contre nous. Il va faire ça par en dessous, en jouant sur nos divisions. On ne saura jamais où il voudra en venir.
Mais quelle que soit la méthode Biden, tous misent ici sur une chose, la levée d'une partie des sanctions pour vendre à nouveau du pétrole et sortir la population de l'asphyxie.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran.
Allez, direction l'espace à présent, là, au-dessus de nos têtes en ce moment même. Et bien, Thomas Pesquet effectue sa deuxième sortie hors de l'ISS.
C'est la deuxième en 5 jours. Elle a débuté vers 14h30 et doit durer 6h30. Cette mission consiste à installer un panneau solaire à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale, Océane Théard.
Sur les images transmises en direct par la NASA, on voit les deux astronautes scaphandres vissés sur la tête en train de déployer un pan de panneau solaire. C'est ce qu'explique Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne.
Ce sont des sorties dans l'espace destinées à rajouter de la puissance électrique disponible par de nouveaux panneaux solaires. À la fin, ça fera une grande bande d'une vingtaine de mètres de long, d'environ 6 mètres de large. Donc moins large, moins long que les anciens panneaux, mais aussi puissant.
La première mission de mercredi avait été raccourcie d'une précieuse heure à cause d'un problème technique du scaphandre de l'Américain Shane Kimbrough. Malgré les nombreux protocoles de sécurité, Jean-François Clairvoy le rappelle, ces sorties à l'extérieur de l'ISS ne sont jamais sans danger.
On cherche à éviter les sorties dans l'espace parce qu'à chaque fois ça prend beaucoup de temps, c'est très complexe, ça augmente le risque des astronautes dans l'espace puisque à l'extérieur on est moins protégé par exemple contre les débris spatiaux qu'à l'intérieur. Qu'à l'intérieur les modules sont équipés de boucliers.
Si la sortie d'aujourd'hui se déroule sans accroc, une troisième sera organisée pour continuer l'installation de ces panneaux solaires.
Océane Théard.
Allez, le match France-Hongrie pour l'Euro de football a été suivi hier par 12,3 millions de personnes à la télévision. C'est 70% de part d'audience.
Et très certainement que les Français seront encore nombreux mercredi pour soutenir leur équipe face au Portugal. Un match qui pourrait les envoyer en 8e de finale. Cyril de la Morinerie, vous êtes à Budapest pour Europe 1. Oui. Avant de revenir sur le programme des Bleus, avant cette rencontre tant attendue, comment s'est passé l'entraînement de l'équipe de France cet après-midi ?
Très bien, l'entraînement vient à l'instant de se terminer. Les Bleus donc qui se sont entraînés dans un petit stade moderne en périphérie de Budapest, là où évolue l'un des clubs de la ville, le Magyar Bashnok. Alors contrairement à hier, on était au calme, c'était une séance sans public, hormis la présence d'une cinquantaine de journalistes. Les remplaçants ont eu un entraînement plus poussé avec ballon, qui s'est terminé par une petite opposition. Il y a notamment eu des combinaisons à trois joueurs devant le but. Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Olivier Giroud étaient ensemble. Et un constat, Giroud ne rate pratiquement aucun aucune frappe. Il est très affûté. Karim Benzema s'est lui contenté avec Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe ainsi qu'Antoine Griezmann de trottiner. On les a vus discuter jusqu'à l'arrivée 45 minutes plus tard de Kylian Mbappé en t-shirt blanc. À noter les absences de Raphaël Varane et de Benjamin Pavard, le latéral qui avait reçu un coup contre les Allemands assemblés en dessous de son niveau habituel hier. Ousmane Dembélé n'était pas là non plus. Il doit passer des examens tout à l'heure à l'hôpital après avoir reçu un coup au genou, l'obligeant à quitter prématurément ses coéquipiers en cours de match. Adrien Rabiot a lui fait du gainage sur un tapis, notamment des pompes. Il a échangé avec Didier Deschamps pendant une dizaine de minutes. Et puis, eh bien voilà, le programme maintenant. D'ici mercredi, une séance demain à huis clos, puis mardi en entraînement donc au stade Ferenc Puskás. Et la traditionnelle conférence de presse que nous suivons avec Jean-François Pérez avant ce match France-Portugal à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1.
Quelle belle semaine.
Ce sera mercredi à 21h. Cyril de la Morinerie à Budapest pour Europe 1.
Les vacances approchent, l'occasion d'essayer de nouvelles activités. Pourquoi ne pas s'adonner à l'écriture, Sophie ?
Eh bien, figurez-vous que depuis le premier confinement, les envois de manuscrits aux maisons d'édition ont progressé de 25% en moyenne. Seulement, écrire ne s'improvise pas. Alors, pour réussir son essai, son roman ou même son autobiographie, il y a des cours qui sont dispensés aux écrivains amateurs. Nicolas Caro est allé suivre un cours à l'école Les Mots dans le centre de Paris.
Je vais vous demander d'écrire votre SMS de rupture. Voilà, et après chacune lira son SMS.
Agathe Saint-Maur est écrivaine, mais elle anime aussi des ateliers d'écriture. La consigne du jour donc, écrire un SMS de rupture, pas facile. Silence et concentration dans la salle, Elena écrit sur son carnet, elle a choisi d'utiliser son vécu.
En fait j'ai pensé à mon ex, et en fait je lui ai envoyé le message de rupture que je n'aurais pas pu lui envoyer dans la vraie vie. Parce que ça serait pas très correct.
Et 10 minutes plus tard, chacune leur tour, les participantes lisent leur texte à voix haute.
Mieux vaut peut-être s'arrêter là, arrêter de faire semblant qu'on finira par être heureux ensemble un jour. Peut-être.
Ensuite, on en discute et on améliore, on regarde différemment, mais peut-on apprendre à devenir écrivain ? Sans aucun doute, selon Élise Nebout, la cofondatrice de l'école Les Mots.
Nous, on est convaincus que les auteurs ont des choses à partager. Et qu'en partageant toutes ces astuces et tout ce qu'ils ont appris en route, ils peuvent aider des personnes qui ont envie d'écrire à leur tour à trouver leur propre voie.
Et la démonstration est faite. Une centaine de participants ont finalement publié un livre dans une maison d'édition. Les tarifs sont abordables, comptez 25 euros de l'heure.
Nicolas Caro, ça vous dit ?
Ça vous tente, Sophie ? On écrira un
voilà,
livre
c'est
à
ça,
quatre mains. Merci. C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup, Sophie. La météo, Valérie Darmon. Valérie, le temps de cette semaine sera-t-il aussi instable que ce week-end ?
Bah écoutez, il va s'inscrire un peu dans la foulée de ce week-end. Alors ce lundi sera effectivement encore instable hein, sur la majeure partie de la France avec des averses et toujours des orages qui finiront de s'évacuer par le flanc est du pays. D'ailleurs actuellement, on a toujours ces 28 départements en alerte orange orage. Le Rhône qui n'est plus en alerte canicule, mais ces nouveaux orages qui vont arriver par la Bretagne et par la façade ouest de la France. Mardi, la situation va évoluer peu par rapport à lundi, avec toujours la poursuite de ce temps agité, en raison donc de cette nouvelle dépression qui arrive par la Bretagne ce soir. Mercredi, c'est la journée de transition et l'instabilité qui commence à décliner. Tout de même, petit à petit, les averses qui seront toujours assez fréquentes, sauf près de la Méditerranée et sauf le long des côtes de la Manche, un petit peu comme aujourd'hui. À partir de jeudi, la dépression bretonne va se combler, les pressions vont remonter par le sud, les éclairs s'y revenir et surtout les températures remonter. Alors après un début de semaine frais et des températures 5 degrés en dessous des normales de saison, un ressenti presque automnal sous les averses et le vent, eh bien c'est un temps plus chaud qui revient par l'Aquitaine avant de se généraliser pour le week-end prochain, le dernier du mois de juin, à toute la France.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Le journal des sports avec vous, Simon Rubin. Simon qu'on retrouve en direct de Munich. C'est Jean-François Pérez qui est là.
Rubin aussi, mais les deux,
c'est Simon, c'est Jean-François,
tout le monde est là. Ah non, mais on a mis le paquet
ah oui,
du côté
non, mais
de
attendez,
service sport.
Quand on sait que c'est Thierry Dagiral, on se mobilise.
on
deux
commence,
matchs, effectivement.
On commence avec l'actu de l'Euro, bien sûr, oui.
Dans ce groupe A, c'est le sprint final et Jean-François Pérez qui suit pour nous ces deux rencontres finales avec Italie-Pays de Galles, c'est en train de se décanter. Et puis, commençons par les autres, les Suisses qui ont fait le break, Jean-François, face aux Turcs. Hein.
Oui, absolument. Deux buts de Tchakari et de Seferovic pour les Suisses qui mènent 2-0 face à la Turquie et qui sont en train de prendre leur billet pour les huitièmes de finale. La Turquie, au moment où on se parle, est donc éliminée directement de cet Euro dès le premier tour. C'est quand même une grosse déception pour les Turcs qui faisaient partie des outsiders, on va dire, de cette compétition. Quant à l'autre match qui se déroule en ce moment au Stade Olympique de Rome, l'Italie est en train de poursuivre sa démonstration dans ce premier tour après ces deux victoires 3-0 contre la Turquie puis contre la Suisse. Les Italiens, New Look, on va en reparler, mène 1-0 face au Pays de Galles. Un but marqué par le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, Matteo Pessina, sur un coup franc de, je vous le donne en mille, Marco Verratti, qui a fait son entrée dans l'Euro après être revenu d'une blessure au genou. Marco Verratti sur un coup franc au premier poteau et la petite déviation subtile de Pessina. L'Italie qui mène 1-0, qui aurait pu mener 2-0 avec un poteau de Bernardeschi à l'instant. L'Italie qui régale franchement son public de Rome, et à l'instant les Gallois réduits à 10 avec l'exclusion pour une grosse semelle d'Ampadou, le joueur gallois. Donc Italie 1-0 et 11 contre 10 face aux Gallois. Normalement c'est très bien parti pour réussir le carton plein.
Et Jean-François, vous l'évoquiez en quelques mots, les choix de Mancini, l'entraîneur, d'habitude on dit on ne change pas une équipe qui gagne, alors là c'est ce qu'il a fait pourtant.
Il a quasiment tout changé, et je vais même vous dire que c'est la première fois que l'équipe d'Italie change dans une grande compétition, Coupe du Monde, Euro, autant de joueurs d'un match sur l'autre. 8 joueurs qui ont été changés par rapport au match précédent contre la Suisse, mais comme je vous l'ai dit, ça ne semble pas affecter du tout le niveau de cette équipe italienne qui semble vraiment en état de grâce et qu'on ne reconnaît pas en termes de style, parce que l'Italie joue d'une manière qu'on ne lui connaissait pas, extrêmement offensif, rapide, un football très moderne, très agréable à regarder, avec donc un Parisien, je vous le disais, Marco Verratti, qui est de retour et qui fait du bien au milieu pour cette équipe italienne. Et puis peut-être un deuxième, puisque vous savez que Donnarumma, le gardien du Milan AC, est sur le point de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Il vient là de cueillir un tir cadré sans grand danger pour sa défense. 1-0 donc pour cette séduisante équipe d'Italie après 58 minutes de jeu ici à Rome.
Jean-François Pérez, et qu'on retrouvera évidemment pour la finale du groupe des Bleus. Ce sera mercredi, une revanche de la vraie finale de l'Euro 2016, France-Portugal, mercredi 21h.
Simon, on va revenir sur la Formule 1. C'était le Grand Prix de France aujourd'hui, bien sûr.
Un Grand Prix à suspense avec la victoire de Max Verstappen qui dépasse Hamilton à 3 tours de l'arrivée. Course qui n'a pas toujours été spectaculaire, mais qui a permis aux équipes de tenter des paris stratégiques. Sergio Pérez, le Mexicain, sur Red Bull complète le podium. Alonso sur Alpine finit 8e, et le premier français, c'est Pierre Gasly, il est 7e.
Le sport, suite le reste de l'actu en bref, Simon.
Le cyclisme, c'est Rémi Cavagna de l'équipe de Sonnen Quickstep qui est nouveau champion de France de cyclisme sur route. Et puis en tennis, c'est la belle grande histoire du jour, un moment historique sur le circuit féminin, puisque la Tunisienne Ons Jabeur est devenue aujourd'hui la première femme arabe à remporter un tournoi WTA. C'était à Birmingham en l'occurrence.
Merci beaucoup Simon Rubin.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Allez, soirée électorale sur Europe 1 ce soir, la participation et les enjeux de ce premier tour, on en parle dans un instant avec Louis de Raguenel et Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, l'interview de 19h17 sur Europe 1 avec Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et Louis de Raguenel, chef adjoint du service politique. Bonsoir Louis.
Bonsoir Thierry.
Pas de chiffres, pas de chiffres avant 20h, bien évidemment, on vivra ça en direct tout à l'heure, mais un chiffre, un pourcentage en tout cas, une abstention historiquement haute, Louis.
Ah oui, là c'est sûr, oui, très très haute, puisque à 17h, on était à 26,72% de participation, et selon les estimations qu'on a, la participation ce soir pourrait s'élever à 32%, donc c'est très très bas par rapport notamment aux dernières élections régionales en 2015, où on atteignait quand même le chiffre de 43,01% de votants, et à l'époque on disait déjà que la participation était faible.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les grandes voix, on le dit à chaque fois, Mickaël Darmon, pourquoi ? Désaveu, mauvaise campagne, pas de campagne, crise sanitaire ?
Vous savez, c'est comme les accidents de la route. Vous avez 10 raisons pour faire un accident de la route. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez à la fois d'abord, concernant la majorité présidentielle, il n'y a pas de sortant. Donc il y a un problème peut-être de mobilisation aussi. On le verra si effectivement ça s'avère. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, vous avez une nationalisation du scrutin. Qui, au fond, donne le sentiment aux électeurs que, eh bien, ayant compris que la grande élection, la seule élection dont tout
c'est
découle,
la présidentielle dans
c'est
un
celle
an.
De l'année prochaine, ouais. Eh bien, pourquoi se déplacer ouais. pour celle qui, au fond,
mais pourtant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on
ne donne pas les bons résultats.
On met, et on se souvient tous du discours de politique générale de Jean Castex à la mi-juillet de l'an dernier, on met la France des territoires au cœur du débat, on est typiquement dans l'élection locale qui influe sur notre quotidien.
Et on est typiquement dans le décalage entre le discours politique et la réalité politique. On le voit d'ailleurs à travers toutes les études qu'on a pu avoir et qu'on peut encore avoir de manière plus confidentielle, même ces dernières heures. Il y a une volonté de la part des électeurs de dire nous sommes motivés dans notre vote ou dans notre centre d'intérêt pour cette élection par des éléments comme la sécurité, comme la lutte contre la délinquance ou la qualité des transports. Et puis, il s'avère en fait que ce ne sont pas des compétences sont dans les régions. Donc, à un moment donné, quand il y a une prise de conscience de la part des électeurs, eh bien que ces catégories ne sont pas fournies par les régions, alors tout d'un coup, eh bien, ils peuvent se retirer du vote, en tout cas être beaucoup plus réservés sur la mobilisation.
À votre avis, c'est une volonté des politiques, c'est une erreur des journalistes d'avoir fait de cette campagne finalement une campagne nationale et un tour de chauffe avant la présidentielle?
Bah, je pense que c'est un peu tout le monde en même temps. C'est-à-dire que c'est l'illustration quand même du décalage qu'il y a effectivement entre une certaine élite, ou en tout cas l'élite politique et médiatique, hein, on en fait également partie, et les électeurs. Et avec du coup cet immense paradoxe, puisque effectivement, comme le disait Mickaël Darmon, les Français avant l'élection disent qu'ils sont très intéressés par ce scrutin. De l'autre côté, ils expliquent que ce qui les préoccupe le plus sont des enjeux en fait nationaux. Emmanuel Macron effectivement a très bien compris ça. D'ailleurs, il a tout fait pour nationaliser la campagne. Et ensuite, il y a beaucoup de paradoxes, puisque de l'autre côté, les gens donc disent qu'ils ont des préoccupations nationales, que dès qu'on les interroge sur la région, ils disent oui, ça m'intéresse beaucoup toutes les préoccupations locales, départementales. Et donc, c'est vrai qu'on a du mal à y voir clair, on a du mal à s'y retrouver, dans aussi un contexte très particulier, hein, qui est le contexte du déconfinement. Les Français sont un petit peu assommés et ont, je pense, du mal à comprendre aussi en quoi cette élection régionale peut changer leur vie.
Ouais. On va regarder ensemble, si vous voulez bien, les enjeux. Alors, on va faire attention à ce qu'on en dit, hein, parce que la loi ne nous autorise pas avant 20h de rentrer dans le détail. Ce soir, Mickaël Darmon, est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai test pour la droite ?
C'est un test pour la droite, tout simplement, parce que c'est la droite qui a le plus de sortants. Donc, tout simplement, il faut confirmer. Les mandats, confirmer, même si on sait qu'en général, il y a dans une règle de vie politique une sorte de primo sortant. Ça reste quand même un défi, parce qu'on a bien vu qu'il y a des poussées sur la carte politique, et que vous avez un jeu à trois forces avec notamment la force RN qui s'installe. Donc de ce point de vue-là, c'est un enjeu. C'est un enjeu également parce qu'il y a eu la gestion de la pandémie qui a mis en avant les présidents de région, présidents et présidentes de région.
Bien sûr.
Donc ça, c'est une nouvelle donne et qui est venue donner une dimension supplémentaire au fait que ce mandat s'est incarné. On ne connaissait pas avant les présidents de région. Aujourd'hui, ils sont connus, ils sont identifiés parce qu'ils ont eu aussi une action à travers la pandémie.
Et Lou Dragnel, on va regarder certaines régions plus que d'autres, notamment, bien sûr, ce qui va se passer en PACA ce soir, ce qui va se passer dans les Hauts-de-France également.
Bien sûr, alors la PACA particulièrement, parce que ça va être l'incarnation aussi de la région dans laquelle Emmanuel Macron a voulu faire son laboratoire. Et puis, en fonction du résultat de ce soir, on verra si il y a une tentative de faire un front républicain. Est-ce que ce front républicain peut fonctionner à gauche ou à droite? Et puis, effectivement, dans les Hauts-de-France, ce qui sera intéressant, c'est Xavier Bertrand avait conditionné sa candidature à l'élection présidentielle à sa victoire aux élections régionales dans les Hauts-de-France. Ouais. Et donc, en fonction de son score, eh bien, on pourra savoir aussi si il a une capacité à entraîner d'autres potentiels candidats derrière lui et donc à entraîner la droite derrière lui.
Gros enjeu également ce soir, Mickaël, pour le Rassemblement national de Marine Le Pen.
Bien sûr, il faut une fois de plus tenter la crédibilité, tenter de montrer qu'il y a une capacité de gouverner au-delà des quelques communes, hein, parce que sur l'ensemble des milliers de communes, dizaines de milliers de communes en France, le RN ne possède que quelques communes, même s'il y a quelques villes emblématiques comme Perpignan. Il y a un enjeu évidemment pour Marine Le Pen, parce que c'est pour elle le tremplin vers l'élection présidentielle, pour montrer qu'effectivement elle a une capacité de pouvoir rassembler et gouverner des pans entiers du territoire. Donc ces régions qui sont maintenant, on le sait, de très grandes parties du territoire, eh bien, pourraient permettre, on verra bien, hein, s'il y a une victoire au bout du RN dans une région ou deux ou plus, on verra bien, ou pas du tout, eh bien, quelle sera la capacité pour Marine Le Pen de lancer sa campagne présidentielle.
Ouais. Gros enjeu également pour Emmanuel Macron, Lou Dragnel, avec combien 15 ministres envoyés au front, c'est ça?
Absolument, il y en avait notamment 5 dans les Hauts-de-France, ouais. 5 en Ile-de-France. Donc effectivement, Emmanuel Macron a voulu montrer aussi qu'il souhaitait s'engager dans cette campagne. Michaël Darmon l'a répété aussi, l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de candidat sortant quand même, La République En Marche, dans aucune région. Donc il y aura deux manières d'analyser le scrutin. Hein. Si le vote pour La République En Marche n'est pas très bon, eh bien, La République En Marche et Emmanuel Macron dira que c'est toujours mieux que rien, qu'il partait de zéro. Et puis, si le résultat est meilleur, eh bien, Emmanuel Macron cherchera sans doute à en tirer des fruits aussi nationaux. Et une certitude, en tout cas à ce stade, une quasi-certitude, c'est qu'il n'y aura sans doute pas de conséquences nationales qui seront tirées par rapport aux ministres qui se sont présentés. En tout cas, on attendra de voir dans les prochains jours si c'est la Bérézina pour La République En Marche. Peut-être qu'Emmanuel Macron changera de discours.
Michael. Alors, pas de conséquences nationales, en général, c'est la phrase qui est toujours prononcée avant par le chef de l'exécutif. Et après, on voit que c'est souvent différent. En fonction, effectivement, du résultat et de la stratégie, alors que nos confrères du Point ont qualifié pour Emmanuel Macron de la stratégie de l'école des fans, qui consiste à tout brouiller et à faire que tout le monde pense qu'il a gagné, eh bien, il peut y avoir ensuite une accélération considérable des tempos et des calendriers politiques en fonction de la carte politique et des rapports de force qui sortiront de cette élection nationale, régionale, donc dans une semaine.
Un dernier mot à vous deux, rapidement. C'est une soirée aussi importante pour Anne Hidalgo, qui n'est pas bien sûr candidate, mais qui s'est beaucoup impliquée dans la bataille et dans la campagne en Ile-de-France et qui prépare sa candidature à la présidentielle, éventuellement Michaël Darmon.
Ça peut avoir l'allure d'un quitte ou double fonction du résultat de la liste d'Audrey, tirée par Audrey Pulvar dans l'Ile-de-France. Et bien, alors qu'elle s'est beaucoup impliquée pour que Audrey Pulvar soit désignée et soit à la tête de cette liste-là, et bien, cela pourrait donner soit un coup d'envoi, soit un coup d'accélérateur ou un coup de frein, c'est selon.
Ouais. Merci à vous deux. Bien sûr, on vous retrouve là dans quelques minutes toute la soirée ensemble. Et voici Wendy Bouchard. Bonsoir Wendy.
Bonsoir Thierry.
Vous êtes bien là.
Merci
Wendy
d'avoir assuré ce 18-19h30.
Mais c'est un plaisir. Aux commandes de cette soirée spéciale, bien sûr.
Oui.
Partout en région
d'antenne
ce soir avec vous.
Hein. En région, absolument, avec nos experts, nos invités politiques. Réaction à froid puis à chaud. Beaucoup d'enseignements à tirer de cette journée de vote. Une participation catastrophique, abstention historique, on va y revenir avec les premiers chiffres dans un instant. La rédaction mobilisée, on vous le disait en effet, à tout de suite. Merci Thierry.
Merci Wendy.
Et à tout de suite sur Europe 1 jusqu'à 22h.